Corinthiens, la première épître aux Corinthiens. On est déjà au chapitre 3 et on a vu les différentes études qu'on a fait depuis le chapitre 1. On a parlé jusque-là de l'unité de l'Église. Hein, Paul il a écrit aux Corinthiens parce que c'était une Église qui n'y avait pas cette unité. Et on a vu la première étude, chapitre 1, versets 10 à 17, que c'était l'unité sur notre mission. Nous avons une seule et unique mission, c'est de propager la bonne nouvelle. Ensuite, verset 18, chapitre 2, 5, c'est l'unité dans la folie de Dieu. Hein? On l'a vu, hein? La folie de Dieu qui est beaucoup plus sage que la sagesse des hommes. Et dans chapitre 2, 6 à 16, on a vu la sagesse de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la sagesse de Dieu? Et la semaine dernière, on a vu chapitre 3, 1 à 9, on a vu s'unir dans la maturité, c'est-à-dire qu'on doit être mûr, des chrétiens mûrs et pas rester des enfants. Hein, les Corinthiens, il a dit, je ne peux pas vous donner de la viande, je suis obligé de vous donner du lait. Pourquoi? Parce que vous êtes encore des enfants et il faut être mûr. Ce soir, on va voir l'unité toujours, mais dans la construction de l'Église. Parce que l'Église, vous savez que c'est le corps de Christ, hein? Et c'est quelque chose que le Seigneur il a institué, lui il a fondé, et c'est à nous d'être unis pour que cette Église il puisse avancer. Hein? Et nous devons la construire. Bien sûr, c'est le Seigneur qui rajoute pierre sur pierre, comme il nous est dit dans Acte, mais c'est à nous, en répandant cette parole, que le Seigneur y rajoute. Donc, s'unir dans la construction de l'Église. Et pour cela, nous allons lire le chapitre 3, versets 10 à 17, et ensuite on va un peu décortiquer ces versets. Tu veux les lire, Olivier?
Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Vous ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes.
Voilà. Ici, Paul, encore une fois, il nous montre comment travailler pour la construction de cette Église. Et une chose qu'il faut avoir, c'est que tous ceux qui travaillent dans l'Église, ils doivent prendre garde. Pourquoi? À la manière dont ils traitent l'Église. On doit prendre garde. La fin, comme on dit, ne justifie pas les moyens. Hein? C'est une mise en garde que Paul nous donne, un avertissement, mais aussi c'est un encouragement, hein? Paul, on l'a vu la semaine dernière, ici change d'image. Pourquoi je dis ça, qu'il change d'image? Pour décrire notre service pour Dieu. Hein? La semaine dernière, on a vu, il a évoqué une image agricole. Vous vous en souvenez, c'est versé. Je plante, lui arrose, c'est Dieu qui fait croître. Hein? Il a utilisé une image agricole. Maintenant, il compare l'Église à un édifice, à un bâtiment, à un temple qui s'est construit petit à petit. Et dans cette construction, il y a trois types de personnages. il y a l'architecte, il y a des constructeurs et il y a malheureusement des destructeurs. On parle toujours de la construction de l'Église. Hein? Tenez ça bien dans votre... Hein? Et on va relever trois caractéristiques de l'Église. Et j'espère que cela nous motivera à vivre correctement dans notre Église, dans l'Église dans laquelle nous sommes. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, tous ceux qui travaillent dans l'Église, ils doivent prendre garde. C'est un avertissement que Paul nous dit. Et premièrement, au verset 10 et 11, Paul, il nous dit que l'Église est en chantier. Regardez ce qu'il dit. Car personne, 10 et 11, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Paul, ici, comme on a déjà vu, hein, on a vu qu'il était appelé apôtre par la volonté de Dieu. Ce n'est pas lui qui s'est déclaré, mais c'est Paul qui a été appelé par Dieu. Et il se présente là, pas en tant qu'apôtre, mais en tant que celui qui a commencé l'Église. Hein? Mais comme apôtre, il a deux responsabilités. Premièrement, il a la responsabilité de propager l'Évangile, de prêcher l'Évangile, et ensuite il a aussi la responsabilité de montrer comment ça fonctionne une église. Pourquoi? Parce qu'il est apôtre, mais il ne se présente pas ici comme apôtre, mais il se présente en tant qu'architecte. C'est lui qui a fondé cette église, hein? Et alors il dit, je l'ai fondée en tant qu'apôtre, mais je vous donne aussi le fonctionnement. Comment est-ce que ça fonctionne l'église? Et voilà, ici Paul il utilise une autre image. Hein? Il dit qu'il est architecte. Hein? Il dit, moi j'ai créé, voilà, il a créé la plateforme.
Le plan.
Hein? C'est dans le passé. Il a créé, parce que l'église est là. Ensuite, il dit, quelqu'un d'autre, et il est en train de bâtir dessus. Sur ce que moi j'ai posé, quelqu'un il est en train de bâtir dessus. Et c'est ça ce qu'il dit, et ça c'est le présent. Voilà pourquoi Paul dit, mais attention, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Voilà, il se présente en tant que fondateur, et ensuite il dit, ce que je vous ai apporté, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est dans le passé, lorsque j'ai fondé l'Église. Maintenant, il y en a d'autres qui me remplacent, hein, et donc, ils bâtissent dessus, sur cette plateforme. Mais attention!
J'ai vu la pierre angulaire, on pose des autres pierres sous la pierre angulaire. La première pierre.
C'est ça, c'est les fondements, n'est-ce pas? Lui, il a posé juste les fondations. Hein, mais d'autres construisent, mais dit attention! On ne peut pas, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que l'Église est fondée sur Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est au commencement, Paul qui l'a fondé, il est au milieu, il est dans le présent, et il est à la fin. Personne ne peut poser un autre fondement. Personne. Hein? Si, et si Paul, il n'a pas de crainte de dire, est-ce que moi j'ai posé la bonne fondation? Non, il n'a pas de crainte de le dire. Pourquoi? Parce qu'il sait. Mais il nous donne avertissement à ceux qui le font. Vous savez, il y en a beaucoup qui ils essaient de faire grandir l'Église avec tout et n'importe quoi. Et vous savez, tous les blabla qu'on peut utiliser, si Christ n'est pas là, l'Église va s'effondrer. Voilà pourquoi Paul nous donne cet avertissement. Je suis l'architecte, j'ai mis la plateforme dans le passé. Il y a quelqu'un d'autre maintenant qui est en train de construire, de bâtir. Mais attention, on ne peut pas poser un autre fondement. Et Paul lui sait qu'après son départ, plusieurs personnes, il y aura plusieurs personnes qui vont arriver pour changer ces fondements. Mais ils ne le pourront pas. Ils ne le pourront pas. Il craignait pour l'avenir. Voilà pourquoi il donne cet avertissement. Voilà pourquoi il dit aussi, mais que chacun, ceux qui sont en train de bâtir maintenant, chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Un grand avertissement qui vaut pour nous. Et Paul, il veut le rappeler, une vérité très agréable, mais importante. C'est-à-dire que Dieu, il se soucie, et Dieu se soucie de notre service plus que du résultat. Beaucoup les hommes aujourd'hui, les gens de la société, ils regardent le résultat. Mais Dieu, il regarde le comment. Comment est-ce qu'on bâtit? Comment est-ce qu'on construit cette église?
La première pierre, la fondation générale, c'est Jésus-Christ, la base, la pierre première pierre rose. Après, il y a plus de 42, l'enseignement des apôtres, pour faire des personnes qui ont les prières. Donc, ça fait encore des pierres qu'on a posées sur Jésus-Christ. Et puis après, nous, on continue à faire poser.
Il compte, voilà pourquoi, comme je te dis, il y a trois types de personnes. Il y a l'architecte qui est Paul, il a posé la plateforme dans le temps passé. Dans les temps présents, il y a d'autres qui bâtissent, parce que Paul il a fondé, ensuite il part en voyage à droite à gauche. Et voilà, il y a d'autres qui bâtissent, et c'est les constructeurs. Mais Paul lui donne cet avertissement, attention. Attention, on ne peut pas poser un autre fondement que Jésus-Christ.
Aldo, c'est un petit peu comme si l'Église était en perpétuelle construction.
Mais l'Église est en construction.
Et que dans le même temps, il y en a qui cherchent à la détruire.
Exactement. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il y a trois catégories de personnes. L'architecte, les constructeurs et les destructeurs.
Mais quand on fait le complet, il y a le ministère du vrai à côté.
Exactement. Oui, mais c'est justement ça. Voilà pourquoi Paul dit de prendre garde. Vous savez, lorsqu'on dit à quelqu'un de prendre garde, ça veut dire d'observer, de regarder. Il évoque l'observation. Et quelle est l'observation que chacun de nous il doit faire en regardant notre ministère dans l'Église, pour la construction de cette Église? Quelle est l'observation, la réflexion que nous devons faire? Peut-être quelqu'un dira, oui, mais tout ce que tu es en train de me dire, c'est valable pour les pasteurs, pour les conseils, pour les évangélistes. Mais voilà, c'est ça. Ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Il est vrai que cette section-là, il concerne les soi-disant, les responsables. On les appelle ça, pas les diacres, mais les cadres. Vous savez, dans une... Il y a des cadres. Mais nous sommes tous invités à participer. On est encore, mais nous sommes tous invités à participer d'une manière active à l'œuvre de Dieu. 1 Pierre, chapitre 2, verset 5, il nous le dit. Il dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, pas pour dire que l'église, c'est pas un bâtiment, est fait avec des pierres vivantes. Les pierres vivantes, c'est nous. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et vous savez, le fait de vivre d'une manière consacrée, on ne dirait pas le faire, est un message, est une publicité. Dans notre église, nous sommes un témoignage. Si quelqu'un de chez nous, il se comporte mal à la société, il dit, oh, mais Aldo, tu n'es pas dans l'église biblique d'Argentine. Voilà pourquoi nous devons vivre d'une manière digne. Pourquoi? Parce que nous avons un message qui est digne. Oui, Roland.
Il y avait un verset qui correspond à ce que le grand Dieu vous aime beaucoup. Dans Éphésiens 2, 20, il dit: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même est à la pierre de l'homme. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur.
Voilà, voilà, c'est ça le, ce que Paul leur dit. Moi, j'ai mis la plateforme sous les fondements des apôtres, de Jésus-Christ, des prophètes, voilà, dont ils construisent. Mais il dit, faites attention. Pourquoi? Parce qu'il y a des destructeurs. Hein? Les faux docteurs qui se mettent partout. Voilà pourquoi c'est quelque chose de très important. Et au verset 12 et 13, hein, lisons-les encore ces versets. 12 et 13.
Or, si quelqu'un bâtit sur le fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œil de chacun sera manifesté. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Et 12 et 13, c'est ça?
Jusqu'à 15.
Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu.
Voilà, ici Paul, il nous dit clairement, comme nous sommes tous, donc on doit être dans l'unité pour la construction de l'Église, il nous a dit que lui, il a mis la plateforme, il n'y en a que d'autres maintenant, ils construisent dessus, mais il nous dit, faites attention. Et ici, de verset 12 à 15, il nous dit, l'Église, c'est un examen. C'est un examen. En tant que chrétien, nous avons un devoir, c'est celui d'être ouvrier avec Dieu. L'Église, elle n'est pas complète. L'Église, elle est en construction. D'ailleurs, il y a un verset qui nous dit que lorsque le nombre, il a été rejoint, le Seigneur Jésus, il va revenir. Pourquoi? Parce que Dieu, Jésus, il connaît le nombre de ceux qui sont sauvés. Et lorsque, voilà pourquoi il y a un autre verset qui dit que nous pouvons hâter la venue de Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on peut hâter la venue de Jésus-Christ? En évangélisant. En évangélisant. Vous savez que Dieu, il nous a élus avant la fondation du monde. C'est quelque chose que c'est difficile à imaginer pour notre petite tête, mais Dieu, il nous dit qu'avant le commencement de toutes choses, bon, Dieu, il a vu Morisseau qui est dans le temps, Morisseau n'existait pas, mais il a vu Morisseau qui est dans le temps, un jour quelqu'un lui parle de Jésus, et il dit oui, et alors Dieu, il t'a élu. Et chacun de nous, c'est pareil. Donc, tous ceux qui existent aujourd'hui, il y a des élus. Et nous, en tant que chrétiens, en tant que pierre vivante, nous devons aller chercher les élus. Et plus nous évangélisons, plus les élus rentrent dans l'Église et le Seigneur y revient. C'est ça. Donc l'Église, c'est un examen. Nous sommes des ouvriers avec Dieu pour bâtir son Église. Voilà pourquoi Dieu il nous donne des responsabilités à chacun. Nous sommes libres, ça c'est très important, hein. En tant que chrétien, nous sommes libres de choisir comment bâtir. Ce n'est pas quelque chose que Dieu nous oblige. Nous sommes libres. Mais Dieu il nous donne comment bâtir. Voilà pourquoi je dis l'Église c'est un examen. On peut dire, Roland, comment tu bâtis l'Église? Et ici, il évoque plusieurs matériaux. Il en évoque les trois premiers, ils sont des matériaux nobles. Et c'est l'or, l'argent et les pierres précieuses. Les trois autres, ils sont communs et fragiles. Le bois, le foin et les chaumes. C'est ce que nous sommes, C'est exactement ce que nous sommes, notre exemple. Notre exemple, nos paroles, nos actes, la façon de nous comporter, de toutes ces choses-là, il va sortir de l'or, de l'argent, du bois, du bois et du chaume.
Alors, à l'épreuve de la vie, à l'épreuve de la vie spirituelle, l'or, quand on passe au feu, il devient plus pur, là on sera aussi les autres. Mais le bois et le feu et le sol, parce qu'au feu, il y a tout rien.
C'est exactement ce que Paul nous montre, et la suite. Mais encore une fois, pourquoi est-ce qu'il y a l'argent, l'or et les pierres précieuses? Pourquoi? Parce que pour l'Église, il faut exiger les meilleurs. L'Église n'a rien à faire du bois, du chaume et du foin. Parce que c'est des choses communes. Et dans l'Église, nous sommes le corps de Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes le corps de Christ? Voilà pourquoi, pour l'Église, il faut les choses les meilleures. Voilà pourquoi il faut. L'Église, il exige le meilleur.
Alors, à l'exemple du temps de Salomon, des bois précieux, du cèdre, des bijoux, tout ce qui avait de précieux, on l'amène au temps.
C'est exactement ça. Si vous voulez, ici, on va le voir. Paul nous parle du tribunal de Christ. Du tribunal de Christ. Que nous soyons engagés dans tel ou tel service, Dieu veut le meilleur. N'importe quoi vous faites de l'Église, vous faites dans l'Église, Dieu, il veut le meilleur. Que vous nettoyez les toilettes, que vous nettoyez la salle, que vous évangélisiez, que vous témoignez. Dieu veut les meilleurs. Et nous devons donner les meilleurs. Pourquoi? Parce qu'on sert un Dieu tout-puissant. Il ne se perd à rien. Les meilleurs de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, de la façon dont nous parlons. Les matériaux qu'on vient de nommer, ils représentent exactement tout ce que nous sommes. On peut être des chrétiens d'or, d'argent, des pierres précieuses, mais aussi des chrétiens, comme on a vu la semaine dernière. On a vu les chrétiens charnels. Paul, il a parlé de ces trois catégories de personnes. L'homme naturel, l'homme spirituel et l'homme charnel. Hein? Qui c'est qui produit des actions, des actes qui vont brûler bois, foin et chaume? Mais nous devons donner le meilleur. Un peu comme il a fait David, vous vous en souvenez, lorsque il devait, je crois qu'il devait construire les temples. Et alors il a demandé à quelqu'un de lui vendre un terrain. Et il lui a dit, mais prends tout ce que tu veux parce que tu es le roi. Mais David, il a dit en Chronique 21-24, mais le roi David dit à Orna, voilà, c'est le d'Orna. Non, je veux l'acheter en bonne et due forme contre sa valeur en argent, car je n'apporterai pas à l'Éternel ce qui est à toi pour offrir un holocauste gratuit. Pourquoi? Parce que à Dieu il faut offrir le meilleur. Et cette action-là, il aurait pu le prendre ça, mais il n'aurait rien apporté. Tandis que là, il l'a payé. Il s'est privé, pourquoi? Parce qu'il savait que c'est. Et il a dit, je vais apporter à mon Seigneur les meilleurs, quelque chose qui ça vient de moi, et pas que ça vienne un cadeau. Et Paul présente une motivation puissante pour agir dans le contexte de l'Église, les jugements. Les jugements de qui? Des acteurs. De ces trois personnages que je vous ai dit, l'architecte, le constructeur et aussi les destructeurs. Parce qu'il peut y avoir aussi des chrétiens qui sont des destructeurs. Voilà pourquoi Paul lui dit, faites attention, ces matériaux-là, faites attention à quels matériaux vous utilisez. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir les jugements. Il va y avoir les jugements. Hein? Et ces jours en question, c'est le moment où Dieu, il descendra, Jésus-Christ, il descendra du ciel, il va nous prendre, nous ramener au ciel, et ensuite il va y avoir le tribunal de Christ, c'est-à-dire c'est le jugement. les jugements du chrétien. Mais comment, Aldo, il n'y a pas écrit ce verset que les chrétiens ne seront pas jugés. Oui, bien sûr, il ne s'agit pas du salut, mais il s'agit des œuvres, de tout ce que nous avons fait, de tout ce que nous avons dit, de comment nous nous sommes comportés. Toutes ces choses-là, dans notre vie chrétienne, nous devons manifester qui ? Christ. Et ces choses-là, les œuvres, ils vont être jugés. Hein? Nous passerons de ce monde vers le Seigneur, et ensuite il y a les jugements. On appelle ça les tribunaux.
Est-ce qu'il y a une différence entre les péchés et les œuvres ? Si les péchés sont pardonnés, on n'a pas pu. Mais les œuvres, on n'a pas fait sans le jugement pour ça.
Ici, on parle de ceux qui ont été enlevés. Donc, s'ils ont été enlevés, c'est que plus de péché, n'est-ce pas? Mais ils passeront en jugement devant le tribunal de Christ pour que les œuvres qu'ils ont faites, ils soient jugées. Et ces œuvres, comme on a dit, ils peuvent être de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou du bois, du foin, du chaume. Voilà pourquoi c'est très important. Et la question du péché, il a été résolu à la croix. Hein? N'en parlons plus. Ce jugement, comme je dis, concerne les chrétiens. Et l'issue de ce jugement est la présence ou l'absence des récompenses. Dieu, il est tellement bon, Dieu, il est tellement dans sa grâce, que pas seulement il nous sauve, il nous amène au ciel, mais il nous donne des récompenses.
Donc la parole est alors, on aussi dans ça.
J'ai eu une fille ici, il y avait à l'époque, et Bob, il était là, en parlant de ça, elle disait, ah, moi je m'en fous de récompenses, hein, et l'important c'est que je sois au ciel. C'est pas bon de dire ça, parce que les récompenses, on va les voir par la suite. Qu'est-ce qu'on va faire des récompenses? On va les offrir au Seigneur. Et si quelqu'un ne reçoit pas de récompense, qu'est-ce qu'il va offrir au Seigneur? Voilà pourquoi c'est très important. Et c'est le tribunal de Christ.
Il y a deux filles dans ce livre, on ne se présentera pas le mépris devant le Seigneur. Dans le Seigneur, il dit le Seigneur.
Oui, voilà. Soit pour les dîmes, soit pour les offrandes, oui. Pour toutes choses. Parce qu'il faut, il est digne, il faut lui donner ce qu'il faut. Il y a deux versets qui nous parlent de ce tribunal. Dans 2 Corinthiens 5, 10, il dit, car il nous faut, vous voyez, Paul dit, il nous faut, donc lui il est dedans, hein, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps, voilà le mot très important, étant dans son corps, de la façon dont il s'est comporté, de la façon dont il a parlé, de la façon dont il a agi. Et le deuxième, il se trouve dans Romains 14, il dit, « Nous comparaîtrons tous devant le tribunal des dieux. » Tous. Hein? Et c'est Christ qui va siéger au tribunal. Pourquoi? Parce que Dieu, il avait mis tout entre les mains de Jésus-Christ. C'est lui qui va juger. Ce n'est pas Dieu le Père, mais c'est Jésus-Christ qui va juger. Le Dieu le Père, il a tout mis entre les mains de Jésus-Christ. Hein? C'est ce qu'on lit dans Jean 5, 22. Hein? Que Dieu, il a tout remis entre ses mains. Le terme utilisé ici pour tribunal, c'est le mot « bema ». Vous me direz, parce que tribunal, ça rappelle un jugement, mais le mot en grec, c'est le mot bema. Et bema, c'est une plateforme. C'est une plateforme. C'est-à-dire que lorsque nous serons devant le Seigneur, voilà, il dira, ah toi, viens ici. J'imagine, hein. Mais c'est ça. Une plateforme, comme ils faisaient les Grecs, lorsque quelqu'un, il gagnait une course ou pas, ils montaient, comme ils font aujourd'hui, premier, deuxième et troisième, vous savez, ils montent sur une plateforme. On monte là-dedans, et c'est là que Dieu va nous dérouler les films de notre vie.
La façon dont on dispatche les différentes...
Pour chacun, tous, hein, tous, on montera sur cette plateforme, et là, il va se dérouler le film de notre vie. Ce que nous avons fait, comment nous l'avons fait, toutes ces choses-là, hein, comme dans les jeux, comme je vous ai dit, hein, c'était la tribune d'où les juges récompensaient les joueurs. Les joueurs, voilà. Ils les font monter souvent. Mais une fois que... Hein. Voilà pourquoi il nous est dit dans Hébreux 4, 13, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Et c'est là, dans le tribunal de Christ. Peut-être que nous avons passé des années ensemble. Ils auraient dit, oui, Aldo, c'est quelqu'un de... Mais ici, le Seigneur dit qu'il ne regarde pas l'extérieur, mais l'intérieur. Nous regardons l'extérieur. Mais Dieu, il connaît tout.
Le feu, tout ça.
C'est ça. Lors du jugement, ce n'est pas ce qui apparaît aujourd'hui. Je vois la vie de chacun de vous, ma propre vie. C'est pas ça qui va apparaître dans le tribunal de Christ. Mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que des fois, on fait des choses, des actes, pour montrer à ceux qui sont autour de nous. Mais à l'intérieur, on a tout un autre esprit. Mais Dieu le regarde. Pourquoi Aldo t'a fait cette action-là? Est-ce que c'est pour te montrer aux gens qui étaient devant toi ou tu l'as fait pour me glorifier? C'est un peu comme David, on l'a vu tout à l'heure, n'est-ce pas? Il a dit non, je n'offrirai rien à l'Éternel qui ne m'écoute pas. Hein? Et c'est justement pour la gloire de Dieu. Et c'est ça qui doit nous inciter. Il faut que nos actions, il soit toute faite pour la gloire de Dieu. Et Paul nous dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Lorsque nous parlons pour la gloire de Dieu, lorsque nous témoignons pour la gloire de Dieu, lorsque nous faisons quelque chose pour Dieu, voilà, pas pour, comme je dis dimanche à la prédication, Senna, les coureurs, hein, il a fait mettre sur sa tombe, il est mort en faisant ce qu'il aimait. C'est un peu, comme je dis, un truc d'égoïsme, quoi. Ce qu'il aimait. Tandis que Jésus, il a donné sa vie pour nous. Et c'est exactement ce que nous devons faire. Chaque chose que nous faisons, que nous disons, nous devons le faire pour Dieu. Et donc, si nous le faisons pour Dieu, il faut qu'il soit selon sa volonté. Voilà pourquoi c'est... Et il nous a dit que ce qui est présent aujourd'hui, c'est visible pour nous. Mais ce qui compte, c'est lorsque nous serons dans cette plateforme, Dieu, il voit l'intérieur. Peut-être que nous croyons que nous avons fait quelque chose pour Dieu, mais Dieu voit exactement pourquoi on l'a fait. Il n'y a rien de caché. Rien de caché. Hein? Dieu parle de l'inutilité des œuvres qui ne sont pas faites pour son honneur. Et comment elles sont ces œuvres qui ne sont pas faites en son honneur? C'est du bois, du foin. Et qu'est-ce qu'il arrive à ces choses-là? Le feu. Ils vont brûler. Par contre, si vous mettez l'or, l'argent, les pierres précieuses dans le feu, qu'est-ce qu'il arrive? Il reste. Voilà pourquoi il dit que c'est le feu qui va manifester nos actions. Et ici, il le dit vraiment, il dit, pour lui, et là, ici, attends, je relis ce verset, verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, donc c'est du foin, hein, du bois qui n'est pas faite à la gloire de Dieu, il perdra sa récompense. Il est là. Pas d'œuvre, aucune récompense. Tu n'as pas fait les choses que Dieu t'a demandé de faire. Tu es sauvé, mais tu n'auras pas de récompense. Par contre, pour lui, il sera sauvé. Mais comme au travers du feu. Voilà. On a accepté le Seigneur Jésus-Christ. On est chrétien. Mais en tant que chrétien, nous n'avons pas fait des choses pour la gloire de Dieu. Et alors Dieu, il nous ramène pareil, il nous enlève. Pourquoi? Parce que nous avons Jésus-Christ. Mais il n'y aura pas de récompense. Il n'y aura pas de récompense. Et la Bible dit que, il nous est dit, hein, les premiers seront les derniers. Et les derniers, ils seront les premiers. Cela me fait penser aussi les paroles de l'Ecclésiaste, hein, dans chapitre 2. Regardez ce qu'il dit là. Ecclésiaste, si vous les trouvez avec moi, le verset 4 à 11.
J'exécutais de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je plantais des vignes, je me fis des jardins et des vergers, j'y plantais des arbres fruitiers et de toute espèce, je me créais des étangs pour arroser la forêt ou croiser des arbres, j'achetais des serviteurs et des servantes. Et je
voilà, tu peux t'arrêter là, c'est donc jusqu'à 11, 16. Voilà, et Salomon, et qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, j'ai fait tant de choses, mais toutes ces choses-là qu'il les a faites, il les a faites pour lui-même. La conclusion de ce paragraphe, il a dit, mais toute vanité, à quoi bon? À quoi bon? Voilà pourquoi ce qu'on fait qui ne sont pas pour la gloire de Dieu ou pour nous-mêmes, toutes ces choses-là, elles vont passer. Et il s'en est aperçu. Et troisièmement, dans le verset 16 à 17, il nous dit que l'Église est un trésor. Tu peux le lire, Olivier?
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes.
Voilà, ici, Paul, il dit que l'Église est un trésor et il tourne son attention vers la troisième catégorie de personnes qui gravitent tout autour de l'Église. Des Corinthes. Et dans toutes les églises d'aujourd'hui, et c'est les destructeurs. Les destructeurs. Pourquoi on dit destructeurs? Parce qu'il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Église a de la valeur. C'est un trésor. Dieu, le Saint-Esprit, y habite. Et c'est ce qui la rend précieuse, parce que le Saint-Esprit, il est là.
Alors, il parle de l'Église en tant que forme du Dieu vivant, ou bien de l'individu.
L'Église, le corps de Christ.
Il parle de l'individu aussi, vous êtes le temple de
l'Église. Non, le corps de Christ, non, chacun de nous.
Chaque élément qui forme l'Église, chaque élément est particulier, vous êtes le corps de Christ, et Dieu t'habite en vous.
Oui.
Parmi nous et en nous.
Mais à nous, il parle en tant que corps, en tant qu'entité. Hein? Voilà pourquoi il dit. Et voilà pourquoi il dit attention à ce que détruisent. Voilà pourquoi il y a une menace. Paul, il menace. Et il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Il y a des destructeurs qui là et qui essayent de détruire l'Église. On va parler un peu plus ce dimanche, je vais parler d'un sujet un peu, je vais parler du diable. Hein? Et c'est exactement ce que le diable, il veut faire. Le diable, il veut détruire tout ce que Dieu a construit. Tout.
Mais il sera lui-même détruit.
Mais son but, c'est ça. Son but, c'est ça. Il sait qu'il sera jugé. Vous vous en souvenez, il a dit, es-tu venu nous juger avant le temps? Ils savent. Mais en attendant ce temps, ils font tout pour détruire ce que Dieu a fait. Et qu'est-ce que c'est que Dieu est en train de faire? L'Église. Et il fera tout pour que cette Église, il puisse ne pas avancer. Un peu ce qu'il faisait avant la naissance de Jésus-Christ.
Alors, il y a certains malfaiteurs qui savent qu'on va les tuer. Ils font un maximum de carnage avant. Ils savent qu'on ne veut plus rien faire, donc ils font un maximum de dégâts. C'est la même tactique de l'ennemi.
Voilà, c'est exactement ça. Hérode, vous en souvenez ce qu'il a fait avec les enfants? Pourquoi il voulait les tuer? Parce que la prophétie disait qu'un roi. Il a dit non, non, je vais tuer les enfants. Je vais tuer tous les enfants comme ça, c'est moi le roi. Il voulait, et ça c'est poussé par Satan. Parce que Satan, pas seulement il dirige ses anges, mais il dirige aussi les hommes politiques, les gens qui gouvernent les pays. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce que s'ils n'ont pas Jésus-Christ dans leur cœur, ils appartiennent au diable. Ils sont esclaves du péché. Ils sont esclaves du péché. Et de temps en temps, ils te sortent des lois qui sont contraires à la parole de Dieu. Et l'avortement, et je ne sais pas, et tant d'autres choses là. Pourquoi ils font ça? Ah, la société, il veut ça. Oui, la société, peut-être qu'il veut ça. Mais Dieu, il dit autrement. Et tous ces gens-là, ils veulent détruire. Et le Seigneur, il nous dit, il ne faut pas que tu touches à l'Église. Paul, Saul, qui es-tu, Seigneur? Mais je suis Jésus.
Je persécute. Hein?
Tu persécutes les chrétiens, et si tu persécutes les chrétiens, tu me persécutes. L'Église, elle est persécutée. Pourquoi? Parce que Jésus a été persécuté. Aujourd'hui, il y a tellement de chrétiens qui sont persécutés. Il y a des églises qui brûlent. Pourquoi? Parce qu'ils sont dirigés par cet esprit-là qui veulent détruire l'œuvre de Dieu. Et c'est ça. Mais Dieu, il dit, touche pas à l'Église. Il ne faut pas que tu touches à l'Église. Pourquoi? Parce que c'est un trésor pour Dieu. C'est le trésor pour Dieu. Et il a donné son Fils pour ça.
Galdo, le fait que là où l'Église est persécutée, il y ait encore plus de conversion, c'est exactement
justement.
Parce que plus l'ennemi cherche à persécuter l'Église, et plus elle progresse.
C'est exactement ce qui s'est passé dans Actes. Hein.
Oui.
Lorsque la persécution a commencé, les gens ils se sont éparpillés partout. Voilà pourquoi ceux qui maltraitent l'Église, ou ceux qui ne font pas les choses que Dieu dit, ils seront confrontés, ils doivent rendre des comptes. Parce que nous, en tant que chrétiens, nous sommes des dispensateurs, nous sommes des économes. Et lorsque le maître il va revenir, il va nous demander compte à notre propre niveau, à l'endroit où Dieu nous a placés. Qu'est-ce que tu as fait là où je t'ai placé? Est-ce que tu as fait les choses pour que je sois glorifié? Mais encore une fois, si il est là lorsque le Seigneur lui pose cette question, il est sauvé. Mais il ne recevra pas de récompense. Voilà exactement ce que Paul il dit. Ceux qui maltraitent l'Église auront des comptes à rendre. Ceux qui la détruisent seront confrontés à Jésus-Christ. Lorsque Paul, encore appelé Saul de Tarse, on l'a vu, hein, il persécutait les chrétiens. Et Jésus lui a dit, tu me persécutes. Hein? Tous ceux qui travaillent au sein de l'Église, hein, au sein dans l'Église ou à l'extérieur de l'Église, doivent faire très attention. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de travailler pour Dieu. Nous sommes des ouvriers de Dieu, des co-ouvriers avec Dieu. Imaginez-vous que Dieu il a choisi des co-ouvriers, des hommes infidèles, indignes, comme nous. D'ailleurs, les anges, on l'a vu, ils se merveillent. Mais pourquoi tu as utilisé des hommes? Parce qu'ils sont faux, ils sont pas fidèles, ils continuent à pécher. Pourquoi tu as utilisé? Mais ça, c'est la grâce de Dieu. C'est ça, là.
Mais Aldo, et nous sommes protégés.
Ben oui, c'est ça.
Nous sommes protégés, nous sommes la fuite de l'ennemi.
Ouais.
C'est ça. Alors, conclusion de ce que Paul lui dit, on peut se poser quelques questions. Il dit, est-ce que je vais choisir d'être un bon ou un mauvais consulteur? Ou voir mes complaires dans les destructeurs de l'Église. Vous savez, hein? Et si je suis prêt à bâtir, avec quel matériel? Quel matériau est-ce que je le fais? des matériaux qui vont s'évanouir lorsque j'essaierai devant le tribunal de Christ, ou des matériaux qui vont en rester. Si les matériaux y restent, le Seigneur va nous donner des récompenses. Et comme il nous est dit dans Apocalypse, pourquoi Dieu nous donne des récompenses, des couronnes? Nous sommes des rois. Mais dans Apocalypse 12, il y a des vieillards qui enlèvent leur couronne et ils la mettent aux pieds de Jésus-Christ. Alors, nous, c'est pareil. Ces couronnes, ces récompenses que Dieu... Parce que les récompenses, c'est récompenses, mais on ne les a pas vues. Hein, mais c'est des couronnes. Hein, c'est des couronnes. Voilà, je l'ai ici. Je ne suis pas rentré dedans parce qu'il est déjà 8 heures. Hein. Le Nouveau Testament décrit les récompenses. Une couronne incorruptible pour ceux qui maîtrisent leur chair. Une couronne de gloire et de joie pour ceux qui gagnent des âmes à Christ. Une couronne pour ceux qui endurent la tentation, l'épreuve. Une couronne de justice pour ceux qui auront aimé son apparition. Une couronne incorruptible de gloire pour les bergers du peuple de Dieu. Alors voilà, si nous recevons ces couronnes, nous imitons les vieillards, les 24 vieillards qui sont assis, qui représentent les 12 apôtres et les 12 tribus d'Israël. Voilà, on retire nos couronnes et le mettre au pied du Seigneur. Pourquoi? Car toi, tu es digne de recevoir toute gloire ou tout honneur. Voilà, que le Seigneur puisse nous aider à mettre en pratique ces choses-là. Hein? Voilà, la semaine prochaine, on va...